La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Nos peurs révèlent souvent nos plus grands espoirs. C'est un fait logique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si vous avez peur de l'échec, c'est parce que vous voulez réussir. Si vous avez peur de la maladie, c'est parce que vous voulez être en bonne santé. Si vous avez peur des araignées, c'est que vous voulez devenir... Ah ben non, là ça marche pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que parmi les peurs les plus récurrentes chez l'être humain, il y en a deux qui dépassent les autres. La peur de la mort et la peur du rejet, qui en soi est une petite mort. Et ces peurs-là dévoilent ce que nous espérons le plus, la vie et l'acceptation. La relation. Bonjour à tous, je m'appelle Luc et je suis heureux d'être avec vous pour ce dimanche de Pâques. Alors pourquoi est-ce que je parle de nos peurs un dimanche de Pâques? Eh bien parce que la croix de Jésus et le tombeau vide viennent nous apporter ce que nous espérons le plus, la vie et l'acceptation. Donc ce matin, si vous voulez bien, on va troquer nos peurs contre de la joie. Normalement, c'est plutôt un programme qui enthousiasme le monde, troquer ses peurs contre de la joie. Et comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va le faire tout simplement en contemplant Christ, en considérant comment la croix et le tombeau vide nous remplissent de joie. On va d'abord parler de la joie de la justice acquise en Christ, et puis la joie de la résurrection de Jésus-Christ. Commençons d'abord par la justice. On le sait, la justice est un pilier de notre société, et cela dès notre plus jeune âge. On râle parce qu'on a été puni à la place de notre copain de classe. Plus tard, on râle quand on nous passe devant à la caisse. Parce que pourquoi? C'est pas juste. On manifeste pour que la justice soit rendue dans tel ou tel domaine, justice pour un tel, dans la culture. La justice est très présente aussi. Pensez simplement à toutes les séries que nous consommons, où le but est de résoudre une affaire pour que la justice soit faite. NCIS, les experts, et puis peut-être pour les plus anciens, Columbo et Derrick. Jusqu'à maintenant, nos super-héros de la Justice League de DC Comics. En fait, on aspire tous à ce que la justice soit rendue. Et le problème qui est devant nous, c'est que de la même manière que nous avons un sens aiguisé de la justice, dès notre plus jeune âge, nous vivons aussi au quotidien avec un réel sentiment de culpabilité qui y fait face. Et parfois, c'est par rapport à ce qu'on a fait, ou même parfois à ce qu'on n'a pas fait. J'aurais dû m'opposer à ça. J'aurais dû le retenir. J'aurais dû me taire. J'aurais dû y aller. On pense à la chanson de Big Flo et Oli qui nous disent que c'est dommage, on aurait dû faire ça. On aurait pu, on aurait dû. Tous ces remords qui nous rappellent que finalement on craint, qu'on aurait pu mieux faire, voire qu'on a complètement loupé le coche. Alors qu'est-ce qu'on fait face à ce dilemme? On s'adapte, on crée notre propre tribunal où nous sommes à la fois nos propres avocats, le juge et bien sûr à tous les coups les victimes. En fait, on crée une justice à deux vitesses. Pour nous, on a des excuses. Pour les autres, on a des peines. Mais alors en quoi la croix de Jésus est une bonne nouvelle pour les coupables que nous sommes? En fait, c'est une bonne nouvelle parce que sur cette croix, il y a eu un grand échange. Et on peut lire cela dans Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, au chapitre 53. C'est un passage très connu qui nous parle d'un serviteur souffrant, qui va réussir son entreprise, et qui, vous l'aurez deviné, oriente les regards vers Jésus-Christ, plus de 700 ans avant sa naissance. On va lire ensemble, si vous voulez bien, le chapitre en entier. Il y aurait de quoi vraiment s'émerveiller pendant un certain temps sur presque chaque verset, mais je vais volontairement retenir quelques idées pour répondre à notre question, en quoi la croix de Jésus est une bonne nouvelle pour les coupables que nous sommes. Alors je lis à partir du verset 13 du chapitre 52, le quatrième chant donc du serviteur. Mon serviteur réussira, il grandira et gagnera en importance, il sera très haut placé. Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains, il purifiera beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconté. Ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. J'aimerais donc relever quelques versets avec vous qui nous parlent de ce grand échange à la croix, et notamment les versets 4 et 5, je les relis. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ce serviteur est souffrant. Et pourtant, il réussira, nous dit le début du texte. C'est celui qui s'est chargé de nos souffrances, nos douleurs, nos transgressions, nos fautes, de notre punition. Et comme je parlais d'un échange, qu'est-ce qu'il y a en échange? S'il a pris ce que nous méritions, qu'est-ce qu'il nous donne? Eh bien, le texte nous dit que nous avons la paix et la guérison. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Quel échange magnifique! C'est juste génial! La punition aurait dû tomber sur nous. C'est ce qui aurait été juste. Mais Jésus a pris notre place. Jésus l'a fait volontairement, en accord avec le plan de Dieu le Père, et la justice a été rendue. La peine a été payée. Mais alors se pose la question suivante. Si vous avez un sens aigu de la justice comme moi, on peut se poser la question, mais où est la justice dans le fait que Jésus souffre à notre place? Comment un Dieu qui se dit juste peut condamner Jésus, le seul juste, et libérer les injustes? C'est gentil, c'est même très gentil, mais c'est profondément injuste, non? Et en fait, dire cela, c'est mal comprendre qui est Dieu, parce que Dieu n'est pas que juste, il est aussi miséricordieux. C'est un Dieu de grâce. Alors il a prévu de toute éternité un moyen pour satisfaire sa justice tout en manifestant sa grâce pour l'humanité. Et il n'y avait pas 50 options. Seule la mort de Jésus, l'innocent, pouvait satisfaire la justice de Dieu et en même temps offrir un moyen de grâce, de salut pour tous ceux qui placeraient leur confiance dans le sacrifice de Jésus. Ok. À ce moment-là, en fait, on peut juste dire un grand merci. Mais comment être certain que la justice de Dieu est satisfaite? C'est à ce moment-là que nos regards, orientés vers la croix, doivent se tourner vers le tombeau. Ce qui peut nous rendre certains que la justice de Dieu est satisfaite, c'est le message de Pâques. Écoutez bien, c'est le message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. Et pourquoi ça nous assure que la justice de Dieu est satisfaite? Eh bien, j'aimerais l'illustrer de façon sud-ouest, si vous me le permettez. Pensez à un match de rugby, par exemple. Une équipe est en train de défendre sa ligne bec et ongle, mais, comme ça arrive souvent, elle commet des fautes à répétition. Trop de fautes. Alors l'arbitre de la rencontre appelle le capitaine, explique qu'il doit sanctionner ses fautes. Et vu qu'il ne sait pas qui a exactement commis les différentes fautes, il adresse le carton jaune au capitaine. Alors certes, on peut dire que ça a un côté injuste, peut-être que le capitaine en question n'en a commis aucune, mais l'arbitre est obligé de sanctionner l'équipe. Sinon, c'est aussi injuste pour les adversaires. Bref, au bout de 10 minutes passées sur le banc des cartons jaunes, le capitaine revient sur le terrain. Et c'est ce qui certifie que la sanction a été purgée. C'est que le banc est vide. Et de la même manière, le vide dans le tombeau montre aux yeux de tous que la justice de Dieu est déjà réglée. Pas besoin de craindre une sanction supplémentaire, de s'efforcer à paraître un peu moins coupable devant Dieu. Sa justice est satisfaite. Il ne manque plus qu'à saisir sa grâce et à accepter ce merveilleux échange. L'illustration a ses limites, vous conviendrez, mais c'est important de comprendre que le tombeau vide de Jésus-Christ nous certifie que Jésus a parfaitement purgé la juste peine de Dieu. C'est la joie que procure Pâques. Jésus n'est plus sur la croix et il n'est plus dans le tombeau. La justice de Dieu est satisfaite. Mais le tombeau vide, en plus de valider la justice de Dieu, est vecteur d'une joie plus grande encore. C'est le dimanche de Pâques, je ne peux pas ne pas vous parler de sa résurrection. Jésus-Christ est ressuscité. Il est revenu à la vie. C'est pas juste qu'on a déplacé son corps pour laisser apparaître un tombeau vide et qu'on l'a mis 10 mètres plus loin, non. Pour reprendre l'image, il est revenu sur le terrain. Il a vaincu la mort. Et si vous revenez dans Ésaïe 53, on apprend que c'était prévu. Le verset 13 dit que le serviteur réussira. Le verset 11 du chapitre 53 nous dit que, après tant de troubles, et on en convient, il verra la lumière. La pierre a été roulée. Il a vu la lumière et sera satisfait. On voit déjà en quelques mots la résurrection annoncée dans ce chapitre, écrit, je le rappelle, plus de 700 ans avant la naissance de Jésus. Plus tard, dans les évangiles, c'était aussi très clair. Si je note juste Marc 8 au verset 31, entre autres, où Jésus exprime très clairement que 3 jours après sa mort, il allait ressusciter. De nombreux textes montrent qu'il est bel et bien ressuscité et que c'est d'une importance capitale pour la foi chrétienne. On dit souvent que la croix est le point culminant de la foi chrétienne, mais cela ne se limite pas qu'à la mort de la croix. C'est la croix dans son ensemble et quelque part la défaite de la croix, à savoir la résurrection qui est le point culminant de la foi chrétienne. 1 Corinthiens 15 au verset 14 nous dit que si le tombeau n'est pas vide, alors c'est notre prédication, celle de Paul qui a écrit 1 Corinthiens et celle de tous ceux qui prêchent Christ à sa suite qui est vide. Et pas juste la prédication, mais notre foi, tous les chrétiens, est vide de sens aussi. Si le tombeau est plein, c'est la foi de milliards de personnes qui est vide de sens. C'est la plus triste nouvelle que nous pourrions donner. Si en revanche, le tombeau est bien vide, alors c'est le fondement de la foi de ces mêmes milliards de personnes. Alors comment prouver que le tombeau était bien vide et que Jésus est vraiment ressuscité, me direz-vous? C'est pas simple. Il y a une part de foi, il y a une part de confiance dans ce que la Bible dit. Et j'aimerais vous donner quelques éléments en plus à considérer. Déjà, le premier élément, en tant que pasteur, je vais vous parler de la fiabilité de la Bible. Je vous conseille notamment de lire le livre ou de regarder le film « Jésus l'enquête » qui démontre les différents éléments de la fiabilité de la parole. Et c'est notamment passionnant de voir à quel point des spécialistes des documents anciens qui sont capables, avec des méthodes bien particulières, d'authentifier un document et qui sont pour la plupart athées, ne remettent pas du tout en question la fiabilité de la Bible. Au contraire, ils disent que les légères différences rencontrées dans le texte prouvent l'authenticité du message de fond dans son ensemble, un petit peu comme les témoignages lors d'une enquête. Mais j'aimerais aussi vous parler de la folie de la Bible. Oui, je parle bien de folie, parce que dans le monde où a été écrit le Nouveau Testament, la parole d'une femme ne valait pas grand-chose, voire rien pour un témoignage. Et pourtant, les évangiles ont voulu s'attacher à la vérité, quitte à étonner, en rapportant des femmes comme les premières observatrices du tombeau vide. Jamais, jamais personne qui aurait voulu monter un canular aurait pris des femmes comme témoins. Ça n'aurait pas tenu debout. Mais il y a plus. Notez dans Matthieu 28 le complot des Juifs. Les gardes qui devaient se tenir devant le tombeau reviennent annoncer au chef des prêtres tout ce qui était arrivé, à savoir la résurrection. Et les chefs leur donnent de l'argent, les chefs des prêtres leur donnent de l'argent pour changer de version et dire que c'est les disciples de Jésus qui sont venus voler le corps. Et notez bien, les chefs de prêtres ne disent pas que c'est faux. La pierre a été roulée, le tombeau est bien vide, ils cherchent juste à arranger la version, à l'expliquer. On pourrait parler des apparitions post-résurrection. En 1 Corinthiens 15, Paul parle de la résurrection comme base de notre foi. Et il mentionne toutes les personnes à qui Jésus est apparu entre sa résurrection et son élévation 40 jours plus tard. Et il parle de plus de 500 personnes, dont certaines sont encore vivantes à l'époque où il écrit cette lettre, soit environ 25 ans après. C'est osé de préciser ça si c'est faux, parce que les Corinthiens auraient pu mener l'enquête et voir que les témoignages ne correspondent pas. Et enfin, un dernier élément, c'est les disciples. En effet, sans la résurrection, comment expliquer le courage des apôtres qui soutiennent cette idée au prix de leur vie? Qui d'entre vous est prêt à mourir pour quelque chose qu'il sait être faux? Blaise Pascal a écrit « Je ne crois que les histoires dont les témoins se feraient égorger ». Et malheureusement, encore aujourd'hui, plusieurs des disciples de Jésus-Christ qui soutiennent la véracité de la résurrection en payent le prix fort. La résurrection de Jésus est certes mystérieuse, car incompréhensible humainement, mais quand on regarde à la vie de Jésus, les nombreux miracles qu'il a accomplis, quand on considère les récits des évangiles avec sérieux, qu'est-ce qui devrait vraiment nous étonner de la part de Dieu qui s'est fait homme? Alors, réjouissons-nous sans mesure de la joie de Pâques. Jésus est ressuscité, il a vaincu la mort et il vit et règne. À nous de le suivre.
L'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir dans les ténèbres. Ta bienveillance toujours éclaire mon âme en peine. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges, laissant sa gloire, porte à ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné, le roi des rois. Merveilleux sauveur auquel j'appartiens, Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur, méchant nom. Son nom, je suis sauvé, Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur, mes chaînons étaient brisés. En son nom, je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Puis vient le matin de la promesse où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vient le matin de la promesse où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, sa faveur. Mes chaînons étaient brisés. En son nom, je suis sauvé. Jésus-Christ.